France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
C'est peut-être le sujet intarissable de vos longues soirées d'été. L'intelligence artificielle et son usage au quotidien dans votre entourage. Certainement cet élève de lycée qui n'envisage plus de travailler à la maison sans ChatGPT. Ce parent qui l'utilise pour faire ses listes de courses, faciliter la préparation des repas, diminuer un peu la charge mentale. Ou encore cet entrepreneur qui depuis quelques mois vérifie tous ses contrats grâce à l'IA. Et puis il y a les réticents, ceux qui le jurent jamais, ils ne s'y mettront par conscience écologique ou bien par peur d'y perdre de notre propre intelligence, de notre capacité à réfléchir. Alors ce soir, on va se demander où vous en êtes, déjà habitué, tenté par l'expérience ou réfractaire, et pourquoi, quels sont les risques pour les données personnelles ou la désinformation. On verra aussi avec nos invités que l'IA, on s'en sert quasiment tous déjà, sans en avoir toujours conscience. On s'interrogera également sur l'évolution de ces outils, quel est l'usage aujourd'hui, quel sera l'usage demain. Est-ce que dans un futur proche, l'intelligence artificielle pourrait guérir nos maux du quotidien? Je pense par exemple à la question des déserts médicaux. Et puis, le deuxième volet du règlement européen, rentré en vigueur il y a 3 jours, change-t-il quelque chose pour nous, les utilisateurs? Intelligence artificielle, une opportunité ou une menace? Vous me direz quels sont vos espoirs et vos peurs et quels seraient les moyens pour vous d'accompagner cette arrivée massive de l'IA dans nos vies. Témoignez, questionnez nos invités 01 45 24 7000 par téléphone ou par message WhatsApp. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et nous sommes en ligne avec Pierre pour commencer. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir France Inter, et merci de prendre mon appel.
Ah bah avec plaisir, dites-nous.
Alors, je me résume, j'ai 85 ans, j'ai un cancer qui est soigné par immunothérapie, dans lequel l'intelligence artificielle entre pour beaucoup. J'ai une DML là, donc je ne peux ni écrire ni lire, par contre. Le numérique avec des logiciels de reconnaissance vocale me permet de vivre à peu près normalement. Donc, bravo à l'intelligence artificielle qui fait des exploits en matière de santé. Par contre, il y a une autre facette, et je trouve que Cédric Villani résume ça bien, en disant l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une difficulté, et une catastrophe. Alors une catastrophe, je crois que tout le monde sent à peu près ce que ça pourrait être, puisque j'ai écrit dernièrement sur mon blog, Les Webs du Chibaudan, un papier dans lequel je dis d'une simple révolution, Internet à une révolution anthropologique, l'intelligence artificielle. Il est bien évident qu'aujourd'hui, comme le dit Eric Sadin, qui a fait un contre-sommet, comme vous savez, et qui nous alerte sur le fait que progressivement, sans qu'on nous en rende compte, ça nous décervelle pour faire court, hein, et ça inhibe nos capacités de penser, donc c'est vraiment une catastrophe. Par contre, c'est une difficulté, ça veut dire qu'il faut y aller. Il ne faut pas rejeter l'IA en disant non, ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas du tout. Au contraire, il faut y aller. Alors comment y aller? Pour ce qui me concerne, je ne dis pas que c'est la vérité. Chacun fait comme il entend. Moi, j'utilise des agents conversationnels. Bien entendu, ChatGPT, en version payante, qui est quand même un peu plus sympathique. Et puis également Perplexity et le chat de Mistral. Et je converse avec l'agent conversationnel, et il m'arrive même en me promenant, parce que je peux encore me promener un petit peu, pendant une heure, d'avoir une conversation avec ChatGPT. Je lui pose une question, puis je le relance, etc. Finalement, voilà.
Une vraie conversation, quoi. Une vraie discussion.
Une vraie conversation avec un petit clin d'œil. L'avantage d'un agent conversationnel par rapport à un humain, c'est qu'on n'est pas interrompu. Ça, c'est une autre question qui mériterait de nombreux développements.
Pierre, vous avez quel âge, juste pour me préciser?
85,5. Bon. Bientôt 86.
Et bah pour discuter ce que vous avez abordé déjà pas mal d'aspects, nous avons deux invités avec nous ce soir en studio. Irénée Regnault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant à l'HESS, pardon, et chercheur associé au laboratoire COSTEC de l'Université de Compiègne. Et puis avec nous aussi Jean-Gabriel Ganassia, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université et membre senior de l'Institut universitaire de France. Peut-être une première réaction, Pierre qui nous appelle, à 85 ans, ça tord peut-être le coup à un cliché, c'est que ce serait surtout les jeunes qui se serviraient aujourd'hui de l'IA. En fait, finalement, est-ce que l'IA aujourd'hui, ça ne touche pas tout le monde ?
Bien évidemment, ça touche tout le monde, mais c'est relativement ancien. Vous savez que l'intelligence artificielle est née il y a un peu plus de 70 ans, hein, en 1956. Hein, et elle était précédée par la cybernétique. Donc, ce n'est pas une discipline scientifique nouvelle. Les progrès qui ont été faits ces dernières années ont transformé l'image que le public s'en fait. Mais vous savez que le web, que tout le monde utilise, c'est le couplage des réseaux de télécommunications avec un modèle de mémoire qui est conçu avec des concept d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'hypertexte. Et d'ailleurs, vous utilisez le protocole HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Mmh. Donc, il y a de l'intelligence artificielle dans les objets quotidiens, sur votre téléphone portable, un tout petit peu partout. Bien sûr, ce que nous raconte Pierre est beaucoup plus précis.
Qu'est-ce qui est nouveau ? C'est l'IA générative ?
Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, depuis 2 ans et demi, fin 2022, on a créé ce qu'on appelle les modèles de langage. Alors, quelle est l'idée ? C'est d'aspirer les relations invisibles qui existent entre les mots dans ce qu'on appelle un réseau de neurones formels. Et ensuite, d'avoir des relations statistiques entre les mots qui font que si vous donnez une suite de mots, il regarde quel est le mot le plus probable qui suit, puis le plus probable qui suit le plus probable, etc., etc. Et là, vous engendrez des textes qui sont bien construits. Alors, bien sûr, ça se fait à un coût vertigineux puisqu'on a des réseaux de neurones qui contiennent des milliers de milliards de connexions. Et on entraîne ces réseaux de neurones sur un nombre considérable de textes. Donc on a des machines qui parlent. Bien sûr, ce qu'elles disent, ça n'est pas nécessairement vrai. Et il y a même d'ailleurs très peu de chances que ce soit vrai. Mais on est capable d'avoir du vraisemblable, c'est-à-dire de discuter avec elle. Alors ça a beaucoup d'avantages, comme le dit Pierre, parce qu'on peut discuter quand on est seul, c'est formidable. Bien sûr, l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des machines qui racontent un peu n'importe quoi. Alors c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Mais je crois qu'il est important de dire aux auditeurs qu'il n'y a pas d'hallucination au sens ancien. Vous savez que ce qu'on appelle hallucination, c'est une perception différente de la réalité. Les machines ne perçoivent rien, mais elles affabulent. Et bien sûr, ça peut avoir beaucoup de charme, mais il faut se méfier.
Irénée Regnault, ce que nous dit Pierre, c'est intéressant. C'est à la fois, il s'en sert dans le quotidien et ça l'aide, mais il y a aussi de la méfiance, ce que pourrait être au bout d'un moment l'intelligence artificielle pour nous, pour notre société. Est-ce que c'est assez représentatif de ce que pensent aujourd'hui les Français ?
Je crois que déjà, on a un témoignage qui est d'une part intéressant, qui ensuite vient de quelqu'un qui a l'air de s'y connaître un petit peu quand même, j'ai envie de dire. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Le monsieur, d'une certaine manière représentatif, dans le sens où il a parlé à la fois de santé, avec cette contribution effectivement de certains types d'intelligence artificielle. On peut penser par exemple à la reconnaissance d'images. Ça résout pas tout, mais ça travaille avec certains praticiens. Ça crée aussi de nouveaux problèmes qu'il faut adresser parce que ça change éventuellement un petit peu le métier, ça décale un petit peu le métier, qui sont pas les mêmes intelligences artificielles que celles qui sont évoquées ensuite, c'est-à-dire les modèles de langage dont monsieur vient de parler. Et là, on sent à la fois l'intérêt et l'inquiétude qui vont de conserve.
C'est ça, il y a la fascination, mais aussi la peur de se dire qu'est-ce que tout ça va devenir.
Et c'est légitime, moi je crois aussi que la peur, et pour les gens qui ont peur, ils ont le droit, c'est un affect qui est légitime, qui ne conduit pas forcément que à faire des bêtises, ça peut aussi conduire à s'informer éventuellement, à lire des livres, ou à minima des articles qui parlent du sujet. Le monsieur a cité, Pierre a cité, pour prendre son prénom, le philosophe Éric Sadin, effectivement, qui est plutôt aujourd'hui dans le spectre médiatique, philosophico-médiatique, disons, un peu en dehors de la recherche, quelque part, le représentant des gens qui sont plutôt contre l'IA. Mais la question est toutefois intéressante, sans poser de jugement moral, puisqu'on aura d'un côté des corpus de textes et de recherches qui vont vous expliquer que l'IA peut, dans certaines circonstances, vous aider à écrire une lettre de motivation, à faire une recette de cuisine, à aider à faire les devoirs au gamin qui n'a pas les parents qui sont à côté et qui ne parlent pas français. Tous ces cas sont à envisager parce qu'ils suivent aussi des trajectoires individuelles qui sont différenciées. Peut-être que le gamin qui, lui, a ses parents, va trouver que l'outil est vulgaire et qu'il ne faudrait pas l'utiliser. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vont vous dire que ça va complètement vous décérébrer. Et on aura de toute façon les deux corpus l'un face à l'autre, et peu de raisons finalement de les résoudre par la science, puisque ce qui va se passer entre les deux, et ça c'est un sociologue qui s'appelle Bilal Benbouzid qui l'a très bien expliqué, c'est un conflit de valeurs. Est-ce qu'on veut être plus rapide dans certaines circonstances? Est-ce qu'on veut apprendre plus vite ou passer sous les fourches codines de la difficulté à apprendre? Et ça c'est très important parce que ça se joue finalement en dehors de la question de l'IA. Ça n'épuise pas toutefois les questions qui sont relatives à la consommation énergétique dont on pourra reparler.
On va en parler certainement. Nous sommes en ligne avec Lucie. Bonsoir Lucie.
Oui, bonsoir.
Alors, vous avez utilisé l'IA par curiosité, racontez-nous.
J'ai utilisé l'IA par curiosité, justement à force d'en entendre parler sur France Inter.
J'ai posé une question.
Donc j'ai posé une question d'ordre médical et j'ai été bluffée par la réponse. C'est-à-dire que j'avais vu ophtalmo, tout ça par rapport à un œdème que j'avais, et la qualité, la structure de sa réponse déjà m'a bluffée. Et enfin, je pense déjà qu'à ce niveau-là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, puisque du coup, il a orienté pas qu'à ce domaine-là, même par rapport à notre niveau, mes consultations, et il a été juste. Hein. C'est-à-dire que j'étais en pleine errance médicale, et lui a su être objectif. Et au-delà de ça, donc je l'utilise pour des démarches administratives, pour faire des textes plus synthétiques, pour les recours, pour m'aider justement dans les chemins que je dois utiliser pour être la plus pertinente possible. Et forcé de constater que ma productivité a explosé. Je suis vraiment... Tout ce que je dois faire, je l'abat en un temps record. Là où, par contre, je dois avouer que je commence un peu à m'interroger, c'est qu'à force d'utiliser l'IA, moi, les hallucinations dont on parle, je les ai pas vues. Par contre, si j'ai compris quelque chose à force de l'utiliser, c'est qu'elle est faite pour nous manipuler dans le seul but qu'on l'utilise de plus en plus. Son but est de nous engager. Pour nous engager, on doit la trouver efficace. Et donc, j'ai remarqué que j'avais de moins en moins besoin de mâcher le travail pour qu'elle me donne des résultats hyper pertinents. C'est-à-dire qu'elle me connaît tellement que j'ai bien peur qu'intellectuellement, je n'ai même plus besoin d'avoir des critères larges et variés et en étant très pointu dans les recherches que moi-même j'aurais pu faire, car elle sait anticiper finalement le résultat que j'attends, mais sans perdre elle-même en qualité de ses réponses. Je ne sais pas si j'ai été claire.
Si, c'est très clair. Voilà. C'est très clair et je voudrais faire réagir Irénée Regnault là-dessus, parce qu'on en parlait avant d'entrer dans le studio. Ces IA, leur but, en tout cas de ceux qui les conçoivent aussi, c'est qu'elles deviennent notre coach de vie, c'est ça ?
Alors, il faut voir comment elles sont vendues, en fait. C'est intéressant de regarder, par exemple, les spots publicitaires qui vendent les intelligences artificielles chez les grands acteurs comme OpenAI et consorts qui les vendent. Effectivement, elles sont vendues comme des coachs, des béquilles cognitives. Et d'ailleurs, souvent, il y a un petit peu de mépris dans ces publicités où le client final passe toujours un peu pour un abruti qu'il faudrait aider dans les circonstances les plus basiques de la vie, acheter une pomme ou expliquer comment ouvrir une porte ou des choses assez simples. Mais pour autant, effectivement, il y a cette efficacité, c'est indéniable. Ne pas voir les hallucinations, c'est-à-dire les erreurs structurelles des modèles, c'est pas très étonnant si on demande à un outil de faire une liste de courses parce qu'il va rester un petit peu fermé dans les informations qu'on lui donne, mais des choses assez convenues. C'est pas non plus très étonnant dans la question de la santé et de la médecine, puisqu'on n'est pas toujours en mesure de juger le résultat d'un écrit scientifique basé sur, soi-disant, sur de la science qui est produit par un texte. Donc, tant mieux si cette personne, effectivement, a eu de bons conseils. Ça en dit peut-être quelque chose sur le système de santé français et les rebonds qui sont faits d'un spécialiste à l'autre. Pour autant, confier sa santé à cet outil devient quand même un problème qui, comme un petit peu Doctissimo à l'époque, va changer le métier des médecins. Et enfin, juste peut-être pour finir, il faut faire attention à cette sémantique du coach, de l'assistant ou de la béquille, dans la mesure où c'est une sémantique qui va invisibiliser aussi les relations de pouvoir entre ces outils qui sont conçus par des firmes principalement américaines et les utilisateurs. Donc on leur donne des données et encore et encore Et encore, on connaît les modèles d'affaires du web, sont principalement basés sur la revente de données personnelles. Ils ne sont pas encore stabilisés pour les modèles de langage. Ils pourraient le devenir. Et ces données, elles vont où ? Elles vont d'abord aux États-Unis. Potentiellement, elles peuvent être réutilisées. Et donc ça, ça pose un vrai sujet aujourd'hui en termes de régulation.
Ça a l'air gratuit, mais ça ne l'est pas vraiment.
Si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Exactement. Jean-Gabriel Ganassia, peut-être pour revenir sur ce qu'elle disait par rapport à la santé. C'est intéressant, c'est un terrain d'expérimentation ancien, la santé pour l'IA.
Ah oui, l'intelligence artificielle, presque dès le début, a essayé de modéliser le savoir des médecins pour aider à faire du diagnostic médical. C'est que les premiers, ce qu'on appelle les systèmes experts, sont développés dans les années 60 avec un système qui s'appelait Dendral, qui a été réalisé par quelqu'un, Josué Eisenberg, qui était prix Nobel de médecine. Et qui essayait d'analyser les sorties de spectrographes de masse pour analyser les molécules. Puis ensuite, les premiers systèmes experts ont été faits en médecine. Et il y a énormément d'applications dans le champ médical, alors que ce soit des systèmes de diagnostic classique, des systèmes d'analyse d'image. C'est qu'il y a des outils qui permettent de caractériser des grains de beauté pour savoir s'ils vont être pathogènes, c'est-à-dire s'ils sont des mélanomes ou s'ils sont bénins, ce qui peut être d'un très grand service. Mais ça ne veut pas dire que ça va remplacer le médecin. Hein. Je crois qu'il faut insister là-dessus.
Elle parle d'errance médicale qui serait résolue par l'IA. Alors, aujourd'hui, l'IA ne fait pas de diagnostic.
Voilà, ce dont elle parle, je crois, c'est une autre question. C'est le fait qu'on est très démunis, on est seul, et on a besoin de réponses à nos questions. Alors, pendant longtemps, on allait voir les voisins, on allait voir les cousins, les cousines, etc. Et là, de chez soi, alors on peut, avec le web, poser des questions avec un moteur de recherche, mais là, c'est beaucoup plus...
Oui, vous parlez de Doctissimo, c'est vrai que c'est ce qu'on faisait il y a encore quelques années.
C'est assez récent. C'est ce qu'on faisait il y a quelques années. Effectivement, la question de la santé est intéressante. Et encore une fois, il faut toujours un peu retourner les questions. Si on prend effectivement l'analyse des grains de beauté, il y a différents systèmes qui existent, qui ne font pas forcément de diagnostic. Il y a des régulations européennes, MDR, FDR, aux États-Unis qui vont aller jusqu'à un certain point où ensuite, c'est quand même le dermatologue qui va prendre la décision finale. En revanche, la question que ça pose, les tout autres. La France est par exemple pas très ouverte, les dermatologues français sont pas forcément très ouverts à ce genre d'outils parce qu'ils savent que si demain on le déploie massivement, il y aura beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire qu'il faut mieux récolter plus de cas positifs que de cas négatifs, sinon on va passer à côté des malades et ça risque en fait d'engorger le système de santé, tout simplement. C'est... Donc c'est ces questions-là qu'il faut voir.
Ce qui est extrêmement important, c'est de savoir à qui s'adressent ces différents outils. Car si l'on prend l'exemple du logiciel d'intelligence artificielle qui diagnostique les grains de beauté, il peut s'adresser au dermatologue lui-même.
Tout à fait.
Mais bon, en principe, il a le coup d'œil. Hein. Mais il peut s'adresser aussi au médecin de médecine générale pour l'aider à l'orienter chez le dermatologue. Auquel cas, c'est très positif. Il peut s'adresser à d'autres personnels de santé, comme à des infirmières, etc.
Même des pharmaciens.
Et puis à des pharmaciens. Et puis, il peut s'adresser aussi aux patients pour avoir une surveillance. Et là, bien sûr, le risque, c'est peut-être qu'il y aurait plus de craintes et de diagnostics. Mais en même temps, ça peut rassurer un certain nombre de personnes. Et c'est très positif. Je crois peut-être, pour revenir sur la question, le commentaire de Lucie, que je trouvais très, très intéressant, c'est qu'elle dit effectivement qu'à la fois on est ahuri, on est stupéfait, elle emploie le terme bluff, bluffé, et en même temps, bien sûr, la question que ça peut poser, c'est que lorsqu'on a une interrogation, on va la soumettre à ces outils et on réfléchit moins. Et donc, il y a, bien sûr, la question, c'est qu'est-ce qui va advenir. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à courir sur son ordinateur pour poser des questions là où, avant, on pouvait d'abord essayer de penser et puis ensuite essayer de se référer à des livres. Et c'est ça, bien sûr.
Je complète d'ailleurs avec Adeline qui nous a envoyé un message là, par WhatsApp. Elle nous dit que elle nous demande, en tout cas, est-ce que le fait de discuter de plus en plus fréquemment avec ses agents conversationnels comme ChatGPT, ne crée-t-il pas ou ne renforce-t-il pas le risque de ne plus accepter de débattre avec des personnes n'ayant pas la même opinion ?
Il faut être prudent sur là-dessus. Déjà, c'est très compliqué à prouver, entre guillemets, faudrait faire enquête.
Il n'y a pas d'études peut-être aujourd'hui là-dessus.
Non, et puis de toute façon, c'est comme quand on explique que les gens sont conditionnés par ce qu'ils regardent à la télé. C'est en partie vrai, mais les gens ne sont pas non plus des panneaux solaires. Il y a toujours un faisceau de pratiques. On utilise rarement ChatGPT tout seul. Dans certains cas, comme ça vient d'être dit, ça peut effectivement se substituer à des relations avec des amis, avec des collègues. C'est le cas notamment chez quelques médecins, la sociologie commence à le montrer, qui vont plutôt se référer à des systèmes d'intelligence artificielle qu'à un collègue. Donc, ils ne passent pas le coup de fil. Voilà, ça, ce genre d'effet peut avoir lieu. Après, les objets ne sont pas forcément aussi déterminants que ça dans la qualité du débat public. Il y a peut-être des choses plus importantes avant qui sont à regarder, notamment sur la liberté de presse ou des choses comme ça. Voilà.
Je voudrais quand même ajouter un petit point sur les médecins, car il faut savoir que les modèles de langage, pour certains d'entre eux, et tout à l'heure on a cité Perplexity par exemple, mais c'est aussi vrai pour le chat, assortissent leurs réponses d'un certain nombre de références bibliographiques. Mmh. Et donc, ce sont des outils de recherche, et ensuite, bien sûr, le médecin a les capacités de se reporter à cette bibliographie pour vérifier.
Alors, nous sommes en ligne avec Stéphanie Duvar. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prof de français, Stéphanie?
Oui, c'est ça.
Alors, allez-y.
Pour commencer, moi, je dois dire, je ne suis pas opposée d'emblée à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une opportunité pour nous. Mais je constate que chez les adolescents, notamment ChatGPT, leur permet de court-circuiter le travail qu'ils ont à faire. Mmh. Un travail qui devrait leur permettre de développer leur connexion neuronale. Donc on leur demande de faire une rédaction et on retrouve une daube, hein, parce qu'en général, on pose mal la question à ChatGPT et on se retrouve avec des trucs qui ne valent rien. Et surtout, le travail du prof est court-circuité. Donc moi, je ne donne plus, comme beaucoup de mes collègues, de travail à la maison. Oui. Parce que, en tout cas, pas de rédaction. Mm. Parce qu'on sait que c'est pas les élèves qui vont faire.
De moins en moins de travail à la maison et de plus en plus de travail en classe. Vous vouliez réagir, Jean-Gabriel Ganassia?
Tout à fait. Et je remercie Stéphanie de poser ce problème dramatique. C'est que ça change les modes d'éducation. Parce que, d'abord, on apprend à écrire en écrivant. Hein, et normalement, on commence à apprendre à écrire quand on est jeune chez soi. Parce qu'on a le temps. Et là, maintenant, c'est impossible. Hein, et ça pose, je crois, des problèmes majeurs. Hein. J'avais été invité, il y a un certain temps, à l'Institut catholique de Paris. Et là, le recteur me disait, vous savez, l'université, au départ, c'était monacale. Alors peut-être qu'il faut qu'il y ait un côté monacale dans l'école qui soit coupé du reste du monde. Hein, et ce sera peut-être l'une des questions. Vous savez qu'il y a eu, en juin dernier, une étude qui a été faite au MIT par un certain nombre de chercheurs qui ont comparé les productions. Alors, ils donnaient 5 exercices, qui sont des dissertations, à des étudiants, certains avec ChatGPT et les autres sans ChatGPT. Et ils comparaient à la fois la qualité des résultats et puis surtout, ils comparaient la mémorisation, la mémoire, le souvenir qu'avaient les personnes des exercices qu'ils avaient produits. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à la fois, bon, les résultats étaient plutôt, comme l'a dit Stéphanie, hein, plus stéréotypés dans le cadre de l'utilisation de ChatGPT, mais surtout, ce qui était très grave, c'est que les élèves ne se souvenaient même plus de ce qu'ils avaient écrit lorsqu'ils utilisaient ChatGPT. Donc c'est un problème majeur pour le futur.
Est-ce qu'on jette tout avec l'eau du bain? Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes façons, quand on est élève, de se servir de l'IA, Irénée Regnault?
C'est un peu la question qui était posée tout à l'heure sur est-ce que ça vous décérébrait ou pas. Globalement, effectivement, le constat, quand on entend les professeurs, ils préfèrent corriger les copies avec l'IA que les confier à leurs élèves. Et puis, il y a cette rhétorique, finalement, de l'adaptation. Hein. Il va falloir s'adapter. Et les profs le font, de toute façon, comme ils ont toujours fait. C'est pas forcément agréable. C'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de donner des devoirs à la maison. Et ça pose des questions sociales un peu fines, encore une fois. Quel est l'élève qui utilise ChatGPT? Dans quelle mesure ça fait monter un tel et pas un tel? Et ça se voit aussi chez les jeunes diplômés, par exemple. Il y a ce même genre d'études où on s'aperçoit que la productivité peut monter à un moment donné pour les plus jeunes, mais qui, encore une fois, ne font pas forcément l'épreuve de l'apprentissage, et ça peut régresser derrière ou pas. Moi, je suis très prudent sur ces études-là pour le moment, parce que j'ai l'impression qu'elles se contredisent encore beaucoup. Après, effectivement, pour les élèves, il y a quand même quelque chose, si je me place sur un terrain un peu plus normatif, qui est de l'ordre du catastrophique quand même. Effectivement, si on n'écrit plus du tout tout, ça va plus du tout. On a des limites d'âge pour les réseaux sociaux à 13 ans ou 16 ans selon les pays. Quand ChatGPT est arrivé un petit peu par effraction hein, dans la vie sociale en 2022, l'Italie l'a interdit, Sciences Po l'a interdit. S'autoriser à se poser cette question, c'est pas idiot. Voilà. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on se donne une éthique de cette utilisation, c'est à l'intérieur de l'usage. Donc c'est qu'au bout d'un moment, on l'ouvre quand même, puisque si on ferme tout et que les étudiants ou les élèves continuent à utiliser sans que personne ne le voit, ça sera pas mieux. Donc on gère, a posteriori, comme pour toutes les innovations qui nous viennent d'un gaillard de Stanford ou ailleurs qui a décidé que ça allait améliorer le sort du monde.
Nous avons un autre professeur en ligne, Dany. Bonsoir, vous êtes de Paris.
Écoutez, je vous appelle parce que moi, je suis professeur de droit et une de mes collègues a donné récemment comme sujet de culture générale à des étudiants qui ont 3 ou 4 ans d'études, « Sommes-nous en guerre ?» Et elle a eu l'idée de demander à une intelligence artificielle de faire un devoir avec un plan. Et on a eu 3-4 pages comme ça. Et de prime abord, comme ça, en le regardant en diagonale, ça paraissait pas mal. Et quand on l'a lu ligne à ligne, c'était vide. C'était des mots parfaitement alignés, des phrases correctes, mais c'est de la mousse, quoi. Il n'y avait aucune réflexion. Et je pense que la différence, c'est par rapport au fait que quand c'est de la médecine, c'est des connaissances. Donc il scanne tout ce qu'il y a, et là, il fait la totalité des connaissances. Quand il faut de la réflexion, je ne suis pas sûr que ça marche de la même manière. Et je pense, pour ajouter autre chose, que si vous voulez, sur par exemple les lettres de motivation, nous ce qui nous désole quand on sélectionne des étudiants, c'est que déjà avant l'intelligence artificielle, pardon, je suis un peu essoufflé, les lettres de motivation, elles se ressemblaient tellement que c'était totalement insipide. Mmh. Et donc, c'est le meilleur moyen qu'un étudiant ne soit pas sélectionné, parce qu'il ne sortira pas du lot.
Jean-Gabriel Ganassia, je vous vois hocher de la tête. C'est presque rassurant finalement ce que nous dit Dany, c'est que c'est pas si bien en fait. L'intelligence artificielle a des limites, quoi.
Je crois bien sûr que l'intelligence artificielle a des limites. Ce qu'a dit Dany est, je crois, extrêmement important. C'est-à-dire que lorsqu'on lit un texte produit par ChatGPT, à première vue, ça a l'air correct, parce qu'il introduit énormément de connaissances, et d'ailleurs quelquefois, qui nous surprennent. Et puis quand on creuse, qu'on lit les articulations des idées, et qu'on essaye de voir ce qu'il y a, on se rend compte que c'est très superficiel, ce sont des clichés. Comme j'ai dit tout à l'heure, les modèles de langage sont faits pour essayer de mémoriser ce qui se dit. Et donc, c'est les choses les plus communes. Et bien sûr, ce qu'il faut, c'est apprendre aux étudiants à faire quelque chose d'original. Mais je voudrais revenir sur les interdictions. Parce que on a vu Sciences Po, très tôt, interdire ChatGPT. Et d'abord, ça pose un problème de fond, parce que je ne sais pas comment on peut interdire aux étudiants de l'utiliser à la maison.
Chez eux, oui.
Mais ça pose un second problème. C'est-à-dire que moi, en tant qu'universitaire, je me dis que c'est notre échec d'universitaire, car normalement, si on va à l'université, c'est parce qu'on désire apprendre. C'est le désir du savoir. Or, ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, l'université est une machine à dispenser des diplômes. Et je crois que ça devrait nous remettre en question, nous remettre en cause, et essayer de faire en sorte qu'on transforme cette signification des institutions d'enseignement supérieur. On doit y aller parce qu'on est passionné par la connaissance et pas parce qu'on veut un papier qui atteste qu'on a un certain niveau de savoir.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ça interroge beaucoup la question de la motivation. Pour revenir d'ailleurs sur les lettres de motivation, ce qui est intéressant dans les études qui sont réalisées qui ont été réalisées au cours des derniers mois, c'est que celles qui sont écrites par ChatGPT sont souvent assez normées, puisqu'effectivement les textes sont puisés depuis l'Internet et de tout ce qu'on peut trouver en ligne. Elles sont normées vers certaines catégories sociales dont le savoir est plus légitime. Elles sont plus masculines quand elles sont écrites par ChatGPT. Et donc, quelque part, ça pousse aussi certains élèves, peut-être étudiants, à s'élever, entre guillemets, vraiment du point de vue du capital culturel, en fait, avec ces IA-là. Et ça, c'est un problème dans le sens où ça les ramène à un niveau où, quelque part, ils n'auront pas fait les étapes qu'il faut faire dans ce cas-là. Et pour autant, qui peut les juger dans la mesure où ils ne sont peut-être pas au même niveau que celui qui sait faire tout de suite la lettre de motivation, la belle lettre de motivation originale, qui appelle aussi peut-être à un entretien de motivation derrière et à d'autres choses. Il n'y a pas qu'une lettre de motivation. Et sur la remarque de Jean-Gabriel, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Oui, il faut donner l'envie d'apprendre. Sciences Po est une chose. Quand on y va, a
priori, c'est qu'on sait déjà à peu près où on met les pieds, puisqu'on est censé être dans l'élite de l'élite. Je pense que le collège du coin, dans la banlieue du coin, a d'autres problématiques qui sont profondes et là qui méritent tout un débat qu'on ne va pas ouvrir ici.
Est-ce qu'il y a un apprentissage à avoir sur l'utilisation finalement à bon escient? Je pose cette question parce qu'on a aujourd'hui quand même certaines études qui expliquent bien l'empreinte, l'impact environnemental de toutes ces sollicitations, notamment à ces agents conversationnels. Est-ce que le message, ça ne serait pas de dire il y a des choses qu'il faut faire et puis peut-être d'autres choses dont il faut se passer. C'est ça qu'il faut peut-être apprendre, notamment aux jeunes.
Alors première chose, il faut d'abord expliquer que l'intelligence artificielle, c'est vaste. Ça ne se réduit pas à l'intelligence artificielle générative. Beaucoup d'applications sont extrêmement utiles et peuvent même aider à une meilleure régulation environnementale. Surveiller les feux de forêt, essayer...
En agriculture aussi.
En agriculture, en alimentation par exemple. On peut essayer de... et on prévoit que dans le futur, chacun pourra étudier l'impact carbone de son alimentation pour avoir une conduite plus vertueuse. Mais il y a certains outils qui, depuis quelques années, consomment énormément d'énergie. C'est le cas des modèles de langage que j'ai évoqués au début de cette émission, parce qu'on entraîne ces énormes machines sur des très gros corpus. C'est le dixième de la Bibliothèque nationale de France pour essayer d'assimiler ce que font les textes. Et ensuite, chaque fois qu'on les utilise, ça coûte énormément au sens énergétique, ça a un impact carbone important. Et puis, il y a un deuxième type de choses, c'est la génération d'images. Et alors là, c'est encore pire. Donc là, bien sûr, c'est absolument vertigineux. Et ça a donc un impact très délétère sur l'ensemble de l'environnement. Donc qu'est-ce qu'il faudrait ? Eh bien, c'est utiliser ces outils à bon escient. C'est-à-dire qu'effectivement, que des artistes, quelquefois, utilisent les générateurs d'images pour faire de nouvelles créations, c'est peut-être positif, mais il ne faudrait pas que chacun s'amuse en permanence à les utiliser. Et c'est bien sûr un enjeu majeur.
Et on arrête de dire merci d'ailleurs à ChatGPT parce que ça consomme énormément.
Oui, ben ça c'est
c'est anecdotique.
C'est ce qu'a dit Sam Altman, le patron d'OpenAI. Ah, après, toujours vigilance avec cette question de la réindividualisation. C'est comme si on vous disait demain, quand tout le monde en aura besoin, que vous ne pouvez pas utiliser l'IA dans tel ou tel cas. C'est comme si on vous disait de ne pas marcher sur tel ou tel morceau de trottoir parce que c'est du bitume et que ça pollue. C'est par définition ce qu'on appelle des monopoles radicaux, c'est-à-dire une fois qu'ils sont là, on ne peut plus s'en passer. Et c'est ça que fait la Silicon Valley aussi. Il ne faut pas non plus délier ces outils du récit économique, capitaliste qui est derrière, puisqu'il s'agit aussi d'augmenter la productivité. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est affirmé par les financeurs de la Silicon Valley, les gens qui mettent aujourd'hui des centaines ou des milliers de milliards de dollars dans ces systèmes. On en est là, en fait. Il y a quelques années, Sam Altman, quelques mois, disait qu'il faut 7000 milliards de dollars pour l'IA. On lui rigolait un petit peu au nez. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de se passer. C'est que vous avez absolument partout dans le monde des fonds qui sont pantagruéliques sur l'intelligence artificielle. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter la productivité, de lancer aussi un nouveau cycle d'accumulation, peut-être de faire pression sur les salaires. Puisqu'il y a la question du remplacement du travail, alors qui est très mal posée, puisque c'est jamais un remplacement net, c'est plutôt un décalage ou une pression supplémentaire. Je pense par exemple aux traducteurs, dont on parle souvent. On leur demande maintenant moins de traduire, mais plus de relire. Le métier est potentiellement moins intéressant, il est moins bien payé. Donc à chaque fois que vous avez cette IA-là quelque part, vous avez potentiellement un conflit social qui pose des questions politiques.
Alors l'impact sur l'emploi, on peut en parler avec Paul qui est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir. Déjà, je voudrais dire merci pour la qualité de vos émissions et puis je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire vos deux intervenants. Donc moi, je vous appelle, je suis product designer dans une société à Toulouse, dans l'aéronautique. Tout ce que je vois autour de moi, en fait, dans le monde du digital, c'est que, c'est un constat qu'on peut faire sur d'autres domaines. L'IA permet à tout le monde de gagner en productivité et donc de lisser ou de niveler par quel sens la demande en productivité que peut avoir un employeur. On a donc des résultats qui sont hallucinants dans la génération de contenu de tout de suite par l'IA. Qui fait qu'on a une concurrence qui est vraiment accrue sur le marché du travail et qui, euh, et que je sais qu'il y a des licenciements et une concurrence vraiment de plus en plus forte. Microsoft, par exemple, qui licencie 10 000 salariés en l'espace de quelques mois, on se doute que c'est en partie à cause de l'IA, qui remplace de plus en plus de monde et qui permet de réduire les masses salariales. Et du coup, les questions que je me pose en fond, c'est est-ce que l'IA ne tue pas plus de travail qu'elle n'en fait ? Et la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on arrive à réglementer un petit peu ? Alors, ce sont des outils américains, donc c'est toute la problématique. On voit que l'Union européenne est incapable de prendre des décisions sérieuses en la matière. Donc voilà un petit peu mes contraintes.
C'est une bonne question. Est-ce que l'IA crée plus de travail ou qu'elle n'en détruit?
Mais je pense que Irénée a déjà apporté une réponse qui me semble tout à fait juste, c'est-à-dire que ça transforme le travail. Bien sûr qu'il y a des occupations qui vont être totalement détruites, mais relativement peu. Mais en revanche, les métiers évoluent. Parce qu'un certain nombre de tâches sont automatisées, et à ce moment-là, d'abord, il faut qu'il y ait des compétences supplémentaires, puisqu'il faut être capable de mettre en œuvre ces automatismes, mais aussi, comme l'a dit Paul très justement, la productivité s'améliore. Et vous savez, c'est un cercle vicieux. Ce qui s'est produit, c'est qu'avec l'arrivée de ChatGPT, tout un tas de salariés se sont dit « Ah ben tiens, je fais ça chez moi, je vais essayer de le faire dans le boulot. » Et puis, à ce moment-là, les patrons ont dit « Ah oui, mais si la personne le fait dans le travail, attention, parce que les informations vont risquer de partir, donc il faut qu'on l'introduise dans la production elle-même. » Et à ce moment-là, ils l'ont mis en œuvre, et le risque, bien sûr, c'est qu'ensuite, un salarié qui n'utilise pas ces outils ne puisse plus exécuter son travail. Et effectivement, qu'on ait besoin de moins de personnes. Et alors, qui plus est, hein, on a affaire avec les outils générateurs de textes, une grande facilité à écrire des textes, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de textes, hein, et on est noyé sous les textes. Et puis ensuite, il y a des outils pour lire les textes, et on est noyé sous les... Donc c'est une espèce de cercle vicieux très, 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 très inquiétant.
Et c'est inquiétant, je reviens aussi sur cette remarque, ce dernier témoignage qui était intéressant, avec peut-être une précision, c'est pas l'IA qui remplace les travaux, c'est les patrons qui décident d'utiliser l'IA, et éventuellement qui aussi parfois s'en servent de prétexte pour remplacer le travail. On a plus d'un cas de sociétés qui ont argué du fait que l'IA était déployée pour mettre la pression, pour éventuellement renvoyer des gens, quitte d'ailleurs à délocaliser à Madagascar, comme ça a été le cas pour One
c'est
Inclusive.
C'est un prétexte, en fait.
Ça peut être un prétexte, je dis pas que c'est tout le temps le prétexte, mais la question qui se pose, déjà, il faut être prudent sur cette question de la productivité. Moi, je le vois aussi en entretien, je parle beaucoup à des product designers comme monsieur, ou notamment à des développeurs. On a une amélioration de la productivité dans le déclaratif qui est incroyable, 150, 200%, 250%, c'est ce que les gens disent. Et en réalité, on a aussi, par exemple, dans le développement informatique, beaucoup de relecture du code qui a été un peu écrit n'importe comment, et du retravail derrière qui est potentiellement rébarbatif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gain de productivité, je dis attention, c'est dans ce sens où le travail se décale.
Parfois, ça donne plus de travail.
Potentiellement, mais peut-être pas pour les mêmes, etc. Ouais. Ça dépend des situations, donc il faut bien regarder ça de près.
Il y avait une question aussi de Paul sur la réglementation. Il dit l'Europe, pour l'instant, ne fait rien. Est-ce que c'est vrai? Il y a l'IA Act avec le deuxième volet qui est entré en vigueur il y a 3 jours. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe ne fait rien pour réglementer, réguler?
Non, l'Europe essaye de faire et essaye de faire depuis longtemps, mais on pourrait dire d'une certaine façon qu'elle essaye trop. C'est-à-dire qu'à la fois, il est essentiel de réglementer, bien sûr. Hein, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les outils d'intelligence artificielle. Et en même temps, la réglementation européenne souffre de beaucoup de défauts de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre tout le monde d'accord et on a tous les parties prenantes qui ont participé, ce qui donne un règlement énorme. Et il sera extrêmement difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça que vous avez énormément d'inquiétudes. Et les inquiétudes, elles viennent de toutes parts. C'est-à-dire, à la fois, les industriels sont inquiets, les utilisateurs sont inquiets, les artistes sont inquiets parce qu'ils ont l'impression que leur œuvre va être pillée. Donc, c'est un règlement qui ne satisfait personne. Et il ne satisfait personne parce qu'il est trop gros. Hein, je veux dire, moi, quand j'étais petit, mon instituteur me disait « Nul n'est censé ignorer la loi », ce qui me foutait la trouille. Hein. Mais aujourd'hui, on a des règlements qui sont paniquants parce qu'ils sont tellement compliqués que personne n'est capable de les comprendre et donc, a fortiori, de les appliquer.
Certains aspects, j'en conviens. Je ne sais pas si la taille est une question, mais j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises qui avaient un peu les mêmes discours sur le règlement général sur la protection des données et qui finissent finalement par y arriver. En revanche, je suis d'accord sur le fait qu'on a des vents contraires de toutes parts et que personne n'est vraiment content. Après, quand personne n'est content, c'est peut-être que finalement, ce n'est pas si mal réussi que ça. Pour ce qui est des modèles de langage, il faut bien avoir en tête qu'ils sont un petit peu exclus d'une certaine manière des risques élevés de l'IA Act, ce qui n'était pas le cas au début.
Et risques élevés, on le rappelle, c'est quoi ? C'est...
Pardon ?
Les risques élevés.
Ah bah, les risques élevés, c'est des risques qui sont considérés, par exemple, mais comme la notation sociale. Voilà. Qui sont
mais le, disons, comme, peut-être pour dire très brièvement, hein, le règlement européen de l'intelligence artificielle est fondé sur la notion de risque, c'est-à-dire d'anticipation du danger. Et tout le problème vient de cela.
Sans doute.
Car l'intelligence artificielle nous surprend. Hein, et vous vous souvenez, justement, il y a 2 ans et demi, quand ChatGPT était arrivé, on a tous été étonnés. Hein, et bien sûr... Dans le domaine des technologies, nous avons affaire à de l'innovation. Le neuf, c'est quelque chose qui n'a pas existé auparavant. Et toute la difficulté, c'est de réguler sur ce qui va venir. Et c'est bien sûr l'obstacle auquel se heurte le règlement.
Il faut inventer des nouveaux mécanismes de régulation, d'autres choses, d'autres contre-pouvoirs.
Déjà, quand on a un IA Act comme celui-là, comme disait Jean-Gabriel à l'instant, effectivement, il faut déjà pouvoir l'appliquer. Aujourd'hui, on a des problèmes géopolitiques qui font que c'est un petit peu dans la balance... avec les États-Unis, on a du mal à l'appliquer. Ensuite, il existe déjà, que ce soit par exemple dans le travail ou ailleurs, des modalités de régulation. La question, c'est pas tant en inventer de nouvelles. On les connaît dans le monde du travail, vous avez un truc qui s'appelle le CSE. Quand votre boulot, il change du jour au lendemain, vous êtes censé en parler là-bas. Bon, bah, reposer la question des CSE, des CHSCT, de la place des syndicats, ça, c'est pas interdit, je pense, et ça peut permettre, dans certains cas, d'ouvrir ce qu'on appelle un dialogue social technologique, c'est un peu le terme à la mode. En tout cas, au moins d'en discuter et de pas se laisser complètement écraser.
Ben, merci beaucoup. Beaucoup à vous deux, nos invités. C'était très riche cette émission. Jean-Gabriel Ganassia, je le rappelle, vous êtes professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université, membre senior de l'Institut universitaire de France. Et puis Irénée Regnault, merci beaucoup, doctorant à l'EHESS, chercheur associé au laboratoire COSTEC de l'Université de Compiègne. Sur le même sujet, je vous conseille le magazine Interception de la rédaction consacré à l'IA dans notre quotidien. Il est signé Laurélie Carive. 19h59 sur Inter, tout de suite. La question des petits bateaux.
Je m'appelle Lise, j'ai 4 ans et demi. Je veux savoir c'est qui a monté la catapulte. Et merci, au revoir.
Et bien la réponse, ça sera juste après le flash.